Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission ce dimanche 4 décembre. Nous sommes à 20 jours du Père Noël et des cadeaux, quelques 18 ou 19 dodos ou 20 dodos comme diront les enfants. Le sujet dont je vous parle, dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un sujet moi-même que je ne connaissais pas. Probablement assez aussi méconnu de vous tous, chères auditrices, auditeurs, mais sans doute certaines érudits en auront eu connaissance. Moi, il y a une phrase qui est au début de ce livre qui dit que l'homme fait des projets et Dieu rigole. Et oui, c'est un proverbe yiddish. Eh bien, là est toute l'histoire de ce livre, l'histoire de deux femmes, l'histoire d'une aventure, l'histoire d'une épopée, dirais-je, historique, pour se sauver devant l'adversité, devant la cruauté, devant la persécution nazie. C'est tout un pan de notre histoire qui est fort importante. Et puis surtout, ces femmes qui ont franchi des kilomètres et des kilomètres avec l'aide de certains, avec la persécution d'autres, pour gagner une terre, presque une terre promise. En tout cas, c'est ce qu'elles ont espéré tout au long de ce périple. Pour nous parler de ce sujet, c'est un roman basé sur des faits historiques. Eh bien, un auteur sans doute que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler, et bon nombre peut-être le savez-vous, le connaissez-vous pour ses engagements. J'ai donc l'honneur, l'avantage et le plaisir de recevoir Marek Alter. Bonjour Marek.
Bonjour, bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous, pour ces deux ailes, pour votre dernier roman, La Juive de Shanghai, aux éditions IXO. Alors, bien sûr, tout le monde vous connaît pour vos engagements, pour vos romans. Là, je disais, c'est un sujet très particulier parce que assez méconnu. C'est un roman, mais basé sur des faits réels. Beaucoup de personnages dans vos romans, dans votre roman, ont existé et on va pouvoir en parler. Mais moi, ce qui m'a poursuivi tout au long de ce livre, c'est comment avez-vous eu connaissance de l'histoire de Ruth et de Clara et de l'histoire de cette juive de Shanghai?
Vous savez, un roman, ce sont des faits.
Oui.
Et puis, ce sont vos propres désirs, vos propres rêves. Vous savez, ceux qui nous écoutent doivent connaître cette phrase de Flaubert qu'on lui a demandé si Madame Bovary existait, qui était-elle? Il a répondu, moi. Moi. Alors, vous me parlez de ces deux héroïnes, c'est moi. C'est-à-dire, d'une certaine manière,
ouais,
je les ai chargées, investies de mes rêves, de certaines situations que j'ai connues moi-même étant enfant à Varsovie pendant la guerre, la fuite et ainsi de suite. Alors, imaginez que nous sommes juste avant la guerre, la deuxième grande guerre mondiale.
1937.
Il y a 5 à 6 millions de juifs en Europe centrale, 5 millions en Russie, donc 11 millions qui parlent une langue que peu de gens comprennent aujourd'hui, le yiddish, ma langue maternelle. Et Varsovie, où je suis né, 1 million d'habitants, 400 000 juifs. D'ailleurs, il y a un chapitre dans mon livre qui rend hommage à cette Varsovie.
Tout à fait.
Et je me suis fait plaisir de l'appeler en yiddish, ma liebe Varche, ma chère Varsovie.
Oui.
Et ces juifs vivaient donc au sein de la société polonaise, ukrainienne ou russe. Ils parlaient, en plus de la langue courante, le yiddish. Ils avaient leurs journaux, leur théâtre, le cinéma, leur tradition,
leur culture.
Et d'un seul coup, 39, les nazis envahissent la Pologne. Envahissent la Pologne et condamnent les juifs à la mort. C'est dans le programme même d'Hitler, Mein Kampf, il faut libérer, nettoyer l'Europe de 100 juifs, de la présence des juifs. Et ces juifs ne savent pas où aller. Toutes les frontières sont fermées. Alors, d'un seul coup, ils apprennent qu'il y a une seule ville qui est prête de les accueillir, c'est Shanghai. Mais la plupart d'entre eux ne savent même pas où est la Chine.
Eh oui.
Ils n'ont jamais entendu parler de Shanghai. Alors, ils regardent la carte, ils trouvent que c'est loin, comment y arriver. Ceux qui ont un peu d'argent, ils peuvent prendre les bateaux à Hambourg, Marseille ou Gênes. Ceux qui n'ont pas d'argent, y a le train, il y a la voiture, on va à pied, mais c'est loin. Il faut traverser toute la Russie et les Russes ne laissent pas entrer. Si on peut traverser la Russie, c'est Michel Strogoff et Jules Verne qui ont lu
les
péripéties de Michel Strogoff.
Tout à fait, oui.
Et parmi ces gens, il y a une tante à moi que je n'ai jamais connue, mais on m'a beaucoup parlé d'elle.
Oui.
C'est la jeune sœur de ma mère, elle est une styliste, couturière.
Oui.
Qui
comme Ruth, dans le roman.
Oui, elle est dans le roman.
Oui.
C'est pour ça que je commence par un atelier de couture.
Tout à fait, absolument.
On fait très, on pense à la beauté des femmes, au corps des femmes, comment on les habille, comment on les rend plus attractifs.
Plus belles.
Et puis,
belle.
Dehors de cet atelier, ça y est, on prépare la guerre des millions de morts.
Et oui.
Et ce miroir déformant d'une réalité crée déjà un suspense. Qu'est-ce qui va arriver avec ces jeunes filles, ces jeunes stylistes, ces Schiaparelli, ces Saint-Laurent, ces Dior, qui n'arriveront jamais parce que la plupart d'entre elles seront tuées. Et cette route, elle s'appelle Route.
Route, oui.
Cette tente, donc, elle tue Berlin où elle a même croisé Eva Braun, maîtresse d'Hitler,
la compagne d'Hitler.
Elle l'a habillée et elle rentre à Varsovie, cette Varsovie juive mais affolée. Elle tombe amoureuse de son cousin, ça n'est pas bien.
L'amour ne se commande pas.
Comme vous dites, mais quand même, il y a des règles dans toutes les religions.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis, lui, c'est un journaliste.
Oui.
Lui, il dit, on va aller quand même vers la frontière soviétique.
Oui.
Et ils arrivent à la frontière soviétique. Les soviétiques ne laissent pas entrer. Il y a un consul général du Japon.
Oui.
Il s'appelle Sugihara.
Sugihara.
Qui a existé.
Et oui.
J'ai rencontré.
1986.
Voilà, je l'ai même interviewé.
Oui.
Et il prend pitié de ces juifs qui s'entassent dans une ville qui s'appelle Kovno.
Oui.
Et il décide, malgré le refus de son gouvernement, de leur donner des visas.
Plus de 6 000 visas.
Oui. Tout à fait, 6200 visas.
Ouais.
Ça veut dire qu'ils sauvent deux fois plus de juifs de la mort que Schindler.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Plus que Schindler. Plus que Schindler. Oui, c'est vrai.
Et ces 6200 juifs, du coup, ils peuvent traverser la Russie puisqu'ils ont un visa pour le Japon. Alors, les péripéties, la Russie est vaste. Ça prend deux mois.
Bien sûr.
Il y a des gens qui se perdent en route. Et puis, ils arrivent au Japon, à Kobe.
Oui.
Manque de peau. C'est le moment où les Japonais signent un pacte d'amitié avec Hitler et Mussolini.
Oui. D'où les ghettos juifs aussi à Shanghai aussi.
Voilà. Et Hitler dit, non, vous n'allez quand même pas laisser ces juifs prospérer, il faut les tuer.
Aïe, aïe.
Et les Japonais parce que c'est les juifs.
Ben oui.
Pour eux, il y a les Japonais et les autres. Les autres, c'est tous les autres. Les Africains, les musulmans, les chrétiens, les juifs, peu importe. Alors, il y a une négociation et les Japonais qui contrôlent Shanghai à l'époque acceptent de les envoyer à Shanghai et les enfermer dans un quartier d'où les ghettos de Shanghai.
Eh oui. Alors, ce consul japonais est parmi les justes des nations. On lui a rendu hommage à cet effet. Et alors, dans votre roman, il bouillonne d'un tas de personnages qui ont existé. Il y a les méchants, les moins bons, les passeurs, les gens sur les bateaux, les gens qu'elles vont rencontrer, nos héroïnes, Ruth et Clara. Alors, Ruth et Clara, elles vont se retrouver miraculeusement à Shanghai parce que Clara part avant, Ruth va partir un peu après, elles vont se retrouver miraculeusement à Shanghai. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est quand même ce courage, cette détermination. Alors, quand Ruth va retrouver Clara à Shanghai, Clara s'est engagée dans le parti
dans
communiste,
la
dans la résistance communiste. Oui, oui.
Oui. Mais elle est anti-nazie et elle se révolte.
Oui.
Ruth se révolte tout naturellement parce qu'elle est condamnée à mort en tant que juive.
Bien sûr.
Et voilà qu'il naît une amitié. Et j'ai découvert en mettant en scène ces deux femmes que l'amitié entre les femmes, ce n'est pas la même chose que l'amitié entre les hommes.
Non, c'est très différent.
Parce que chez les hommes, il y a ce côté viril.
Absolument.
On aime quelqu'un, on lui tape sur la cuisse,
c'est ça.
On le prend par l'épaule, on l'embrasse, on l'enlace. Tandis que chez les femmes, il y a une tendresse physique qui accompagne la tendresse psychique.
C'est vrai.
Et on a envie de la caresser. Et l'autre, votre ami est triste, on a envie de la prendre dans les bras et la bercer comme un enfant. Mais une jeune fille est déjà une mère d'une certaine manière, en puissance. Et ça m'a fasciné, ces deux personnages qui, pour deux raisons différentes, s'opposent au nazisme et fuient chacune de son côté vers le seul endroit où on veut bien d'elle, le Shanghai. Et se trouve à Shanghai. Et vous savez, quand vous mettez deux destins, deux personnages dans un monde qui, lui, change. La Chine, il se passe des choses. Il y a la révolution.
Oui, tout à fait.
Il y a Mao
Zedong, oui.
Là, il y a la concession française, la concession britannique, la concession internationale. On a oublié que la Chine était colonisée par les Européens, les Américains, pendant longtemps.
Oui.
Et les gouverneurs de la concession française est un pétainiste, mais il refuse, lui aussi, comme les Japonais, de déporter ces Juifs.
Oui.
Et il les protège. Donc, vous avez autour du quartier juif des policiers en képi, comme en France, pendant la guerre, qui les protègent. Et puis, bien sûr, quand on est dans un pays où on apprend la langue, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des amours qui naissent. Et c'est passionnant parce que d'un seul coup, on découvre un monde qu'on connaît mal. Aujourd'hui, on connaît un petit peu la Chine parce qu'on porte le t-shirt made in China.
Oui.
Où on achète des portables fabriqués en Chine. Mais vous vous rendez compte, à l'époque, dans les années 40 la Chine, c'était un continent inconnu.
Bien sûr.
Et j'ai appris énormément. J'ai appris un moment parce que les Chinois, imaginez-vous, considéraient que eux, les Juifs, sont les deux seuls peuples qui ont traversé des millénaires sans changer ni de tradition, ni de religion, ni d'alphabet.
Oui.
Et il y a Zhou Enlai, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mao Tse-tung, qui m'a expliqué un jour. Je l'ai rencontré à Genève. Il m'a dit, regardez Marek, vous prenez Gargantua à Pantagruel des Rabelais. Vous le donnez à lire à un jeune à l'école, il ne comprendra rien.
Bien sûr.
Il faut lui traduire cette langue du Moyen-Âge en langue moderne. Vous prenez Don Quichotte de Cervantes.
C'est pareil. Ben oui, bien
pareil.
Sûr. Pareil.
Le jeune espagnol ne comprendrait pas, il faut leur traduire.
Oui.
Or, vous prenez Confucius
ou Socrate,
4000, 5000 ans, tout le monde comprend.
Mais oui.
Il n'y a pas de problème.
Bien
la
sûr.
Langue, le mandarin n'a pas changé. Vous prenez Isaïe, les prophètes de la Bible, tout le monde en Israël comprend parce que
la langue n'a pas changé.
Et curieusement, cette proximité rend la vie de ces deux femmes plus facile et en même temps, ça les engage dans les tourbillons politiques, révolutionnaires. Et puis, le nouvel arrive de l'Europe.
Et oui.
L'Europe est envahie, la France est envahie.
Est occupée, oui.
L'Europe est en ruine. Et j'ai trouvé que cette épopée mal connue, inconnue, méritait un livre.
Et
comme on ne peut pas tout raconter dans un livre, ou alors on fait comme Balzac, la comédie humaine.
La comédie humaine en 15 volumes. En 15 volumes, oui.
Aujourd'hui, c'est difficile.
Oui.
Les éditeurs ne marcheraient pas.
Bien sûr.
Alors, j'ai inventé un journal.
Oui, de la fille de Ruth.
C'est elle qui tient le journal.
Qui tient le journal.
La fille de Ruth préserve, bien sûr. Là, vous avez raison.
Oui.
Et elle tient un journal. Ce qui permet dans le journal d'inscrire en digest les événements marquants qui marquent
De 1939 à 1943, je crois.
Voilà. Et c'est bouleversant parce que du coup, ce n'est pas moi qui raconte.
Et non.
C'est elle qui raconte.
C'est elle qui raconte. Oui.
C'est un petit peu comme dans Rouge et le Noir de Stendhal.
Oui.
C'est pas Stendhal qui raconte la bataille de Waterloo.
Non,
c'est Fabrice.
C'est vrai.
Donc c'est beaucoup plus fort. Mmh. Il a trouvé un témoin. Mmh.
Mais quelque part, moi, ça m'a fait penser aussi au journal d'Anne Frank.
Le journal.
Ça m'a fait penser au journal d'Anne Frank.
Oui, exact. Vous avez raison. J'y ai pensé,
Mais oui.
Je voulais pas me comparer. Parce
oui, non, sans comparaison, mais on peut faire un parallèle. On peut ça m'a effleuré l'esprit. Voilà, moi j'y ai pensé. En lisant le livre, j'y ai pensé.
La différence, c'est, ce qui est commun, c'est qu'ils sont deux jeunes femmes qui racontent leur vie.
Leur quotidien. Leur quotidien, sous l'occupation allemande. Voilà, tout à fait.
La différence, c'est qu'Anne Frank, c'est ses condamnés.
Et oui, oui.
Et Ruth, elle pense qu'elle va s'en sortir.
Oui. Quoique, Anne Frank, il y a des moments d'espoir, puisqu'elle espère aussi sauver le jeune homme qui est le fils de leurs amis. Ils font quand même des projets à un moment donné ensemble. Donc, il y a des moments d'espoir chez Anne Frank aussi, quand même.
Oui, il y a l'amour aussi.
Il y a l'amour, bien sûr.
L'amour naissant des jeunes filles. Oui. Je trouve que ce procédé d'un journal où on donne la parole à un de vos personnages, on ne peut pas l'utiliser n'importe quel.
Bien sûr.
Mais ça vous permet de traverser des années en raccourci et faire passer aussi les tribulations, les angoisses d'une époque, et peut-être partager l'émotion qui autrement serait restée un peu éloignée, parce que il y a un auteur qui raconte, on lit, c'est passionnant, mais on rentre pas dans le personnage.
Bien sûr.
Il n'y a pas d'identification possible. Tandis qu'avec un journal, on peut s'identifier.
Tout à fait. Et puis, ça n'est pas les tribulations d'un Chinois en Chine, ce sont les tribulations d'une juive à Shanghai. Voilà.
Oui, bravo.
Alors, il y a une chose aussi. Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnages. Et à noter aussi, à la fin de l'ouvrage, pour les éditrices et auditeurs qui prendront le livre, il y a plein d'explications sur les personnages. Et il y a aussi des Américains, des Anglais qui ont joué aussi un rôle, en plus, bien sûr, de ce consul japonais. Il y a plein de noms, plein de références historiques auxquelles on peut se raccordé. Ce qui est quand même aussi extraordinaire, c'est que on n'imagine pas le périple qu'ils ont tous vécu, enfin, ces gens qui sont partis de Varsovie vers Shanghai, cette aventure sans savoir où aller, comme vous dites, la plupart ne connaissaient même pas le nom du pays, mais c'est surtout cette volonté, cette force qui les ont animés, plus que tout, c'était l'instinct de survie était plus fort que tout, et ils allaient vers une terre qu'ils ne connaissaient pas, vers des aventures et des choses qu'ils ne savaient même pas ce qui allait leur arriver. Moi, c'est surtout cette force d'âme qui m'a bouleversée et que j'admire beaucoup, parce que ça m'a dû être évident, surtout dans les circonstances. Et puis, ces jeunes femmes, elles allaient vers un destin qu'elles ne connaissaient pas, et puis tous ces gens. Mais c'est cette force d'âme, moi, que j'ai beaucoup admirée dans le livre, et vous en parlez tellement bien aussi.
Mais écoutez, ça me fait plaisir ce que vous faites, vous résumez bien, ça me fait penser à ce proverbe qui dit « La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie ».
Exactement.
Les gens s'accrochent à la vie. Et c'est vrai qu'on découvre à travers ces deux femmes et un monde qu'on a déjà un peu oublié, on le retrouve dans des vieux films, et on découvre ce qu'on a déjà oublié, que la Chine, avant la révolution,
maoïste,
a traversé la guerre d'opium.
Et oui, tout à fait.
D'opium, pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas de médicaments.
Et non, les gens se soignaient à l'opium.
On ne pouvait pas opérer les gens parce qu'on n'avait rien pour arrêter le sang qui coulait quand on ouvrait la poitrine pour réparer le cœur. L'opium était là. Et ça coûtait très cher, il y avait la guerre. Et ces juifs que les Japonais envoient à Shanghai retrouvent des juifs qui sont déjà là depuis longtemps. Et certains qui viennent de Bagdad, ce sont des hommes qui sont enrichis dans la guerre d'opium. Parce qu'il y avait des clans, il y avait aussi trois clans juifs. Et un jour, Charles Aznavour m'a fait une remarque qui m'a touché. Il m'a dit, les Arméniens et les Juifs ont traversé le même drame. C'est-à-dire les Arméniens, il y avait génocide.
Oui, 1905, bien sûr.
Voilà, le génocide des Juifs, etc. La seule différence, c'est quand un Arménien devient riche, il construit une église. Quand un Juif devient riche, il construit une école. Or, ces Juifs qui arrivent là-bas trouvent ces trois Bagdadi, comme on les appelle, comme Sassoun ou d'autres, riches, et ces trois riches voient parmi les Juifs qui arrivent plein d'orphelins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent vite des écoles pour leur transmettre la connaissance.
Bien sûr.
Et je mets en scène un de ces mafieux, parce qu'il y a aussi des mafieux.
Oui, il y a de tout.
Grâce à qui, Ruth retrouve son amie
Clara,
la révolutionnaire
Clara.
Et il y a cette rencontre avec les Chinois, parce que bon, il y a une qui aime les Chinois, l'autre aussi d'ailleurs.
Oui.
C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, il y a en Chine des Juifs chinois qui ont les yeux, les yeux des Chinois.
Eh bien oui, bien sûr, bien sûr.
Ils sont juifs. Et moi, vous savez, quand le bonheur d'écrire un roman de ce genre, c'est qu'en l'écrivant, on apprend.
Bien sûr.
Et je suis comme un enfant. Quand j'apprends quelque chose que je ne connaissais pas, je vous donne un exemple. Il y avait autour de Mao quelques juifs idéalistes polonais qui ont raté la révolution en Allemagne, ont raté la révolution en Russie à cause de Staline, et ils se disent, tiens, Mao, peut-être là, on installera cette société rêvée, juste, égalitaire. Et ils apprennent le mandarin, ils rejoignent Mao. Parmi eux, il y a un type qui s'appelle Jacob Rosenfeld. Et quand Mao est en train de perdre la guerre contre les nationalistes de Chiang Kai-shek.
Oui, Chiang Kai-shek.
Aujourd'hui, ils sont à Taïwan, à Formose. Oui, il y a ce Jacob Rosenfeld a une idée. Il me dit, écoute, camarade, je te propose, on a 50 000 adhérents, tu me donnes à chacun un drapeau rouge, ça fait une forêt de drapeaux rouges, ça impressionne. On traverse la Chine et je te garantis, une fois arrivé au bout, on sera des millions. Et Mao, il dit, comment tu sais? Et l'autre amène la Bible traduite en chinois.
En chinois,
oui. Regarde, Moïse est arrivé en Égypte avec son frère Aaron, ils étaient deux. Quand ils sont sortis, c'était un peuple.
Et oui, et oui.
Et la longue marche, c'est la victoire de Mao. Et ça m'a fait rire. Et en même temps, je me dis, j'ai appris quelque chose.
Ben oui, voilà. Alors, il y a aussi d'autres personnages, moi, qui m'ont... Cette fameuse fratrie des frères Lee, qui étaient six, tous, alors musiciens, écrivains, je crois poètes, tous aussi ont eu un rôle aussi assez important, assez vital aussi pour cette époque. Mais moi, ça m'a... Ils m'ont fasciné aussi, ces frères Lee, ces six frères Lee, ils m'ont passionné aussi.
Ben oui, c'est que dans des situations extrêmes apparaissent, se manifestent des sentiments extrêmes.
Eh oui.
C'est ainsi, pour survivre, on s'appuie sur l'autre. C'est la Bible qui dit, quand tu es seul dans le désert, tu tombes, tu meurs.
Oui.
Quand tu es dans le désert avec quelqu'un, c'est quelqu'un te soutient.
Tu tombes et tu te relèves.
Et oui. Vous vous soutenez l'un
bien sûr,
l'autre.
Bien sûr.
C'est-à-dire que les liens sont beaucoup plus forts que pendant une période de paix pacifiée, tranquille, comme on est aujourd'hui en France. Et c'est vrai qu'il y a cette fratrie. Il y a, par exemple, sur le bateau entre Kobe et Shanghai, Ruth se trouve dans une cabine avec six femmes.
Oui.
Six femmes. Six femmes différentes, chacune a un nom prédestiné d'une certaine manière, si on le traduit. Et il se crée une sorte de...
une solidarité.
Oui,
tout à fait.
Une complicité,
oui.
Qui est très rare. Et elles s'entraident, elles s'entretiennent,
elles se soutiennent.
Et quand il y a une qui meurt,
c'est le drame.
Elles sont là au moment où on la jette dans la mer, parce que sur le bateau.
Sur le bateau, il n'y a pas d'autre choix. Et non, malheureusement.
C'est très, très fort.
Oui.
C'est très fort.
C'est vrai. C'est un membre, c'est comme si c'était un membre de la famille qui partait, tout simplement.
Oui, c'est juste.
En tout cas, c'est un magnifique roman. Moi, je classifierais de roman historique, La Juive de Shanghai aux éditions XO. Ça a été un vrai bonheur je vous aurais écouté encore pendant des heures, mais voilà, il n'y a de bonne compagnie. Il n'y a de bonne compagnie qui ne sache se quitter. En tout cas, voilà, c'était vraiment un moment que j'ai apprécié. Voilà, sachez que ce micro vous est toujours destiné. Vous êtes un éternel invité, Marek Alter, quand vous voulez.
Merci.
Voilà.
Claudine, à bientôt.
La Juive de Shanghai aux éditions XO. Merci Marek Alter et à très bientôt. Voilà, quant à nous, bien, je vous souhaite une belle lecture. Je vous souhaite d'aller à la rencontre de ces personnages et de cette histoire passionnante. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.